Merci d'écouter RFI, 11h30 en temps universel. Il est 13h30 à Rome.
RFI Midi, Anne Cantner.
Une demi-heure consacrée à l'actualité en Europe et puis à midi, temps universel, ce sera votre journal Charlotte Hydrac avec à la une une grande parade militaire sur la place Rouge.
À Moscou, célébration en grande pompe en Russie du 9 mai pour les 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie, en présence notamment des présidents chinois et brésiliens. Et sur fond de guerre en Ukraine, la France et la Pologne de leur côté signent à Nancy un traité qui renforce le partenariat entre les deux pays. Son essence même, selon le Premier ministre polonais, c'est une clause de soutien réciproque en cas d'agression.
À suivre aussi le point sur les dernières opérations militaires entre l'Inde et le Pakistan.
Qui continue ces dernières heures, Islamabad accuse New Delhi d'hystérie guerrière, d'avoir poussé deux états nucléaires plus près d'un conflit majeur. Et puis la première messe de Léon XIV ce matin et sa première homélie, forcément très attendue.
Et on va en reparler tout de suite avec notre envoyé spécial. A tout à l'heure, Charlotte Hydrac.
RFI, l'Europe à midi.
Première messe donc du pape Léon XIV ce matin dans la chapelle Sixtine au lendemain de son élection. Nous sommes en direct avec notre envoyé spécial. Bonjour Nicolas Rocca.
Bonjour Anne.
Les mots du souverain pontife sont très attendus. Il avait donné le ton hier en appelant le monde à construire des ponts pour être un seul peuple. Il a de nouveau pris la parole ce matin. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première cérémonie religieuse ?
Eh bien, Léon XIV est apparu dans le décor grandiose de la chapelle Sixtine, vêtu d'une manière assez sobre, avec simplement une chasuble blanche et la férule, ce bâton adopté par Benoît XVI en 2009. Les lectures ont eu lieu en anglais et en espagnol, les deux langues du nouveau pape. Lui-même s'est exprimé en anglais.
I begin with a word in English. And the rest is in Italian.
Avant de commencer son homélie, à savoir son discours, durant la messe, en italien.
Nombreux sont les contextes où la foi chrétienne est considérée comme absurde, réservée aux personnes faibles et peu intelligentes, des contextes où on lui préfère d'autres certitudes comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir, le plaisir.
Un message porté surtout sur la nécessité pour les catholiques, selon lui, de porter, d'annoncer l'évangile. Et puis il a dessiné quelques thèmes de préoccupation.
Et pourtant, c'est précisément pour cette raison que la mission est urgente en ces lieux, car le manque de foi entraîne souvent des drames tels que la perte du sens de la vie, l'oubli de la miséricorde, la violation de la dignité de la personne sous ses formes les plus dramatiques, la crise de la famille et tant d'autres blessures dont notre société souffre considérablement.
Tante altre ferite di cui la nostra società soffre. Et non poco.
Des sujets généraux qui ne traduisent pas encore de prise de position forte de sa part. Si Léon XIV est décrit comme un libéral sur l'immigration, sur l'aide aux plus démunis, il ne serait pas autant sur les questions liées à la famille, sur sa vision des questions LGBT ou encore sur le rôle des femmes dans l'Église.
Sur ces questions-là, il faudra attendre encore un peu pour voir ce que fait le nouveau pape. Mais pour l'heure, Nicolas, son message adressé aux plus démunis, adressé au monde, a-t-il résonné auprès des personnes qui étaient présentes ce matin autour du Vatican ?
Eh bien, c'est difficile à dire, Anne, parce que cette messe n'était pas retransmise sur les écrans géants autour du Vatican. Certains fidèles se disaient déçus. Ils espéraient l'apercevoir en cette première journée de pontificat. C'était le cas de Maximo et Sergio, venus de Madrid, très surpris de voir un Américain élu pape.
J'avais comme favori le cardinal philippin, mais c'est bien, c'est un Américain avec des racines espagnoles, des racines péruviennes, c'est fantastique.
Au-delà de son profil qui les a séduits, ils espèrent des réformes libérales dans l'Église catholique.
Je pense qu'il doit essayer de donner plus de visibilité à l'homosexualité au sein de l'Église. Je pense que c'est un sujet assez important qui doit être traité immédiatement.
Je pense qu'il va devoir concilier des positions contradictoires au sein de l'Église, réussir à être conciliant et diplomate.
Ils souhaitaient l'apercevoir au balcon, ils ont seulement pu regarder un bout de la messe sur leur portable. Léon XIV, lui, est sorti de la chapelle Sixtine sous les applaudissements nourris des cardinaux, des enfants de chœur qui étaient présents. Le grand public, lui, va devoir attendre ce dimanche pour l'apercevoir à nouveau lorsqu'il s'adressera à la foule, place Saint-Pierre.
Nicolas Rocca, en direct du Vatican, en direct de Rome. On vous retrouvera un petit peu plus tard dans la journée, évidemment. Et puis à partir de 13h, temps universel, nous nous pencherons sur les attentes en Amérique latine après l'élection de ce pape qui connaît très bien le Pérou, notamment pour y avoir travaillé pendant des années. Il a même la nationalité péruvienne. Léon XIV qui fait la une de toute la presse européenne ce matin, le pape des deux mondes, comme l'appelle la Stampa, qui souligne aussi la division de l'Église italienne, estimant qu'elle sort vaincue du conclave. Même tonalité dans la Repubblica, l'ère des papes italiens comme tradition, tentation et obligation est véritablement terminée. Arrive à la tête de l'Église catholique donc Robert Prévost, un super DRH de l'Épiscopat mondial, titre Libération en France, qui brise donc le tabou, voulant qu'on ne nomme pas un pape états-unien par peur, entre autres, écrit le quotidien, d'une collusion avec la puissance américaine. Pas de risque pour le soir. Le quotidien belge estime que Léon XIV est plus un pape du monde que des États-Unis. Un monde, résume le soir, dévoré par la montée des identitarismes, des extrémismes et la montée en puissance de dirigeants qui ont érigé la cruauté et le non-respect de l'état de droit en nouveaux principes directeurs. Mais pour le soir, l'arrivée du nouveau souverain pontife pourrait aussi signifier une papauté plus musclée et moins consensuelle. Le journal rappelle dans un autre article, Léon signifie lion et le lion ne s'excuse jamais de rugir. Et puisqu'on parle du pape, Wyborcza en Pologne s'indigne de la photo publiée il y a quelques jours par Donald Trump, image générée par intelligence artificielle le montrant en tenue de pape justement. Il y a un gars comme ça dans chaque lycée, écrit le journal. Roi de la cafétéria, empereur des vestiaires, qui pense que Jean-Jacques Rousseau est une marque de survêtement français. Il s'agit en fait d'un tyran, d'un voyou et d'une brute à l'école, poursuivit Borsa, en se demandant quel genre de nation élit un hooligan comme président.
RFI, l'Europe à midi.
On commémore aujourd'hui en Russie la fin de la Seconde Guerre mondiale. 80 ans après, sur la Place Rouge, un défilé est organisé. Aux côtés de Vladimir Poutine, il y a ses alliés du moment, de l'Asie à l'Afrique en passant par l'Amérique latine. Mais le Kremlin n'a quasiment pas pu élargir aucun représentant ou presque des alliés de l'époque à l'Ouest. Anissa El-Jabri, vous êtes en direct avec nous de la capitale russe. Une exception, le Premier ministre slovaque.
Oui, voilà. Et pourtant, jamais depuis le début de la guerre lancée par Vladimir Poutine en Ukraine, jamais le petit écran russe ne s'était autant montré déterminé à vouloir démontrer absolument que la Russie n'est pas isolée. Une présentatrice a ainsi comparé les tribunes et le défilé sur la place rouge au sommet des BRICS à Kazan en octobre dernier. Et tant pis si en réalité, vous le disiez, Anne, le cercle était vraiment bien moins large aujourd'hui dans la capitale russe. Il fallait à tout prix pour le pouvoir montrer à son opinion intérieure le plus de dirigeants possible, malgré l'ignorance de l'Ouest, ainsi insisté un commentateur. Le centre de la diplomatie est au Kremlin. Les dirigeants y sont. On a même vu, ça aussi c'est inédit, Vladimir Poutine les recevoir un à un.
Et il y a eu le défilé, 11 500 soldats sur la place rouge. En tout cas, ce sont les chiffres qui ont été donnés par l'agence étatique TASS.
Voilà, année parmi eux, dans le détail, des soldats de 13 pays ont aussi pris part à cette parade, comme la Chine, premier contingent, le Vietnam, la Birmanie, l'Égypte. Aucun Nord-Coréen, en revanche, n'a battu le pavé moscovite. Leur présence était discrète dans les tribunes, mais Vladimir Poutine, et ça a été extrêmement vu, un geste très démonstratif, il est venu les saluer à la fin du défilé. 1500 combattants en Ukraine étaient aussi présents. La télévision détaillant abondamment leurs médailles, c'est une manière classique, on le sait, pour le chef de l'État russe de souligner encore et toujours ce narratif qui assimile la Seconde Guerre mondiale et la guerre en Ukraine. Autre signe de cette guerre qui est menée par les soldats de Vladimir Poutine, eh bien les armes qui ont été montrées, certaines qui déferlent sur les villes d'Ukraine depuis presque 2 ans, nuit et jour, les drones iraniens Giran et les drones russes Lancet.
L'Ouest, allié en 45, ennemi aujourd'hui, mais pour la première fois, Anissa, l'Ouest n'a pas été ciblé dans la courte allocution de Vladimir Poutine.
Voilà, même au contraire, hein, parce que le chef de l'État russe a cette fois salué, je cite, l'ouverture du deuxième front en Europe, qui selon lui, je cite encore, après les batailles décisives sur le territoire de l'Union soviétique, a rapproché la victoire. Il a même ajouté, nous apprécions hautement la contribution à notre lutte commune des soldats, des armées alliées, des participants à la résistance. Alors bien sûr, Vladimir Poutine n'est pas allé jusqu'à nommer qui que ce soit, mais par ouverture de deuxième front, il fait bien sûr référence surtout au débarquement américain, britannique et canadien sur les côtes normandes en 44. Alors, le signe qu'il faut y voir, bien sûr, c'est que dans cette période incertaine, celle où les pourparlers entre l'administration Trump et la Russie ne donnent pas de résultats visibles, eh bien, le chef de l'État russe continue encore et toujours à prendre bien soin de ménager le seul interlocuteur qui compte à ses yeux, et c'est les États-Unis.
Anissa El-Jabri en direct de Moscou. Et dans ce contexte, les Européens, eux, tentent de s'afficher unis et de plus en plus, comme la France et la Pologne qui signent aujourd'hui un traité d'amitié et de coopération. Emmanuel Macron et Donald Tusk sont dans l'est de la France à Nancy pour s'engager à renforcer leur coopération militaire et surtout ce que le Premier ministre polonais a appelé l'essence de ce traité. Les deux pays se doivent un soutien réciproque en cas d'agression. Ce rapprochement est crucial, c'est ce que nous explique Léo Perra-Peignet de l'Institut français de relations internationales. Il répond à Joris Silbermann.
Pour la France, elle est cruciale parce que la Pologne, vu ses plans actuels, sera la première puissance militaire terrestre du continent d'ici 10 ans. Que la France, de son côté, fait un pivot européen qui est important depuis quelques années, avec un désengagement contraint hein, de l'Afrique, un réengagement sur le flanc Est, d'abord en Roumanie, en Estonie, mais peut-être à l'avenir en Pologne, qui est nécessaire pour établir un cadre d'une défense européenne plus crédible face à une Russie très agressive.
Et pour la Pologne, pourquoi c'est important ?
Alors, la Pologne, en fait, est très courtisée en tant qu'acteur avec de grandes ambitions et de grandes capacités en cours de réalisation, mais ça peut être important notamment puisque la Pologne voudrait presque doubler, par exemple, le volume de son armée de terre et aura d'importants besoins en termes de formation, de transfert d'expérience. Et la France est vue encore à l'heure actuelle comme un acteur qui est assez expérimenté, voire très expérimenté dans le domaine militaire. La France n'est pas le seul partenaire de la Pologne. La Pologne est un pays qui est très atlantiste, ce que la France n'est pas du tout. Donc il y a beaucoup d'obstacles en interne que ce traité va peut-être permettre d'aplanir, mais qui restent quand même des cailloux dans la chaussure assez importants. Surtout, il y a le fait que quand les Polonais entendent les Français dire « il faut que les Européens achètent Européens », personne n'est dupe sur le fait que la France entend surtout acheter Français, que la France n'a pas forcément une culture de la compensation industrielle et du transfert de technologies auxquelles les Américains sont beaucoup plus habitués, si vous voulez. Donc c'est quand même un ensemble de dynamiques qui rend la coopération assez difficile. D'autant que la Pologne reste un acteur très engagé vis-à-vis des États-Unis et que le président Trump récemment a réitéré qu'il restait committed, engagé vis-à-vis de la Pologne, malgré leur volonté de désengagement relatif du théâtre européen.
Un rapprochement avec la Pologne alors que les 27 célèbrent aujourd'hui la journée de l'Europe. Rapprochement avec la Pologne après une proximité affichée entre la France et l'Allemagne cette semaine, puisque comme le veut la tradition, le nouveau chancelier allemand s'est rendu à Paris très rapidement après son élection par le Parlement. On a beaucoup parlé de Friedrich Merz cette semaine, mais son élection fait aussi émerger une autre figure dans la vie politique allemande, c'est son vice-président Lars Klingbeil, votre Européen de la semaine, Muriel Paradon. Il a 47 ans seulement et il a réussi à se hisser au plus haut poste, puisque en plus de ses fonctions de vice-chancelier, il est aussi ministre des Finances.
Oui, Lars Klingbeil, c'est l'étoile montante du SPD, le Parti Social-Démocrate, dont il a gravi tous les échelons pour se hisser à sa tête il y a 3 ans. C'est une personnalité qui s'impose, y compris physiquement. Il est très grand, 1m96. Et derrière son sourire avenant, c'est un redoutable animal politique, nous dit Patrick Moreau, spécialiste de l'Allemagne.
Il est très très difficile à classer. Un de mes amis l'a défini comme un nounours. C'est vrai qu'il est un petit peu rond, un petit peu sympathique. Il s'exprime très bien, il sourit beaucoup. Mais c'est quelqu'un d'une volonté, si vous voulez, de puissance qui est quand même assez étonnante.
Une volonté de puissance qui a amené Lars Klingbeil à négocier avec les conservateurs de Friedrich Merz, le nouveau chancelier, le poste clé de ministre des Finances au sein de la coalition gouvernementale.
Et il a bien négocié Lars Klingbeil parce qu'il a subi avec son parti, le SPD, une défaite cuisante aux législatives de février dernier, 16% seulement des suffrages, mais il a réussi à tourner la situation en sa faveur. C'est un fin stratège, selon Étienne Dubslaff, maître de conférence à l'université Paris-Nanterre et spécialiste du SPD.
Il a joué assez finement, effectivement. Il porte une lourde part de la défaite de la social-démocratie. Mais il a réussi implicitement à faire porter le chapeau à sa co-présidente Saskia Esken. Et c'est a réussi à s'installer comme l'homme fort du parti au sortir des élections.
Lars Klingbeil s'est débarrassé en fait de la vieille garde du parti. Il veut représenter une nouvelle génération. Son parcours, il est assez classique. Il commence sa carrière auprès de l'ancien chancelier sociodémocrate Gerhard Schröder, est élu député pour la première fois à 27 ans. En 2021, il participe à la campagne pour l'élection d'Olaf Scholz. Sinon, Lars Klingbeil vient d'un milieu relativement modeste, nous explique Étienne Dubslaff.
Son père était soldat sous-officier, sa mère était vendeuse, je crois. Ses parents n'ont jamais fait d'études, donc lui, oui, par contre, il a fait des études de sciences politiques, qui est la deuxième voie royale pour la politique en Allemagne, derrière les études de droit.
Des études de sciences politiques, donc il n'a pas d'expertise particulière pour son poste de ministre des Finances.
Oui, mais nul doute qu'il saura s'entourer. La question est de savoir quelle politique il va mener. Lors de sa première prise de parole mercredi, il a promis de remettre l'Allemagne en récession sur le chemin de la croissance en attirant les investissements privés et de présenter un budget d'ici à l'été. Il pourra compter sur le fonds exceptionnel de 500 milliards d'euros voté par les députés en mars pour rénover notamment les infrastructures. Alors va-t-il adopter une politique plus centriste, voire de gauche, comme certains le prédisent, alors qu'il cohabite avec un chancelier conservateur? Pour ce fin négociateur, c'est aussi un enjeu personnel, car il voit loin. Patrick Moreau.
Il est très très ambitieux, il veut devenir chancelier, c'est tout à fait évident. Et maintenant qu'il a pratiquement éliminé toute la vieille garde, il a quasiment tout le pouvoir au sein du SPD, il va monter sa propre équipe et il va préparer le parti à la prochaine grande confrontation qui, à mon avis, se produira beaucoup plus tôt que les gens ne l'imaginent.
Le nouveau chancelier Friedrich Merz a été effectivement élu difficilement en début de semaine par les députés. Il est impopulaire et Lars Klingbeil pourrait en profiter pour avancer ses pions. Rien ne lui fait apparemment peur. Dans une récente interview à la presse allemande, ce gros fumeur en rémission d'un cancer expliquait « On regarde la vie d'une autre manière quand on a été proche du précipice. Cela donne beaucoup de force. »
Lars Klingbeil, votre Européen de la semaine, Muriel Paradon.
RFI. L'Europe à midi.
Reportage au Royaume-Uni où chaque année le nombre d'oiseaux menacés augmente de manière dramatique. Un recensement vient de montrer qu'un tiers des espèces d'oiseaux maritimes risquent l'extinction, dont la sterne arctique par exemple ou encore le goéland cendré. Notre correspondante Emeline Vin s'est rendue dans la plus grande réserve ornithologique côtière d'Angleterre où l'on s'inquiète de cette tendance.
Au coucher du soleil, les fous de Basson reviennent par dizaines dans leur nid. Lovés au creux des falaises de Bempton Cliffs, ils partagent le paysage avec les goélands, les mouettes, les petits pingouins et même quelques couples de macareux. À 100 mètres au-dessus de la mer du Nord, armé d'un télescope et d'un coupe-vent, Yann admire le spectacle qu'il sait menacer.
Je viens deux ou trois fois par semaine ici, ou près de chez moi dans le Yorkshire. On a de la chance, car ici les oiseaux sont dans des bonnes conditions, mais je sais que certains endroits enregistrent d'importants déclins. Cela m'inquiète beaucoup.
En tant qu'île, le Royaume-Uni représente un endroit essentiel pour la reproduction et la survie des oiseaux de mer. Seulement, aujourd'hui, un tiers des espèces présentes sur les côtes britannique est menacée d'extinction. Un chiffre qui contraste avec la multitude d'oiseaux dans le ciel de Bempton.
Regardez, il y a des centaines de fous de Basson dans leur nid, et là-bas, en mer, quelques guillemots et des petits pingouins. Et tenez, si vous regardez par là, une foule d'oiseaux dans l'eau, sûrement plusieurs milliers.
Dave O'Hara, le directeur de la réserve, en dénombre plusieurs centaines de milliers.
Ici, à Bempton Cliffs, il y a un demi-million d'oiseaux maritimes l'été. Mais il s'agit de la plus grande colonie du pays. Il n'y a quasiment aucun autre endroit pareil. Le nombre d'oiseaux maritimes a diminué de 60% par rapport à l'an 2000 et l'on vient d'ajouter 5 espèces à notre liste rouge des espèces menacées.
En tout, 10 espèces figurent sur cette liste. Il y a le macareux, ce petit oiseau noir au bec coloré, en danger depuis longtemps, mais aussi plusieurs espèces de goélands, la sterne arctique, une sorte de petite mouette noire et grise, sans compter celle sur la liste orange. La préférée de Dave O'Hara, c'est la mouette Rissa, la kittiwake en anglais, un genre de goéland en miniature.
À Bempton Cliffs, nous comptons la colonie tous les 5 ans. La population de kittiwakes a enregistré un déclin de 10%. Sur la dernière décennie, les couples de kittiwakes n'ont produit en moyenne qu'un demi-poussin. Ce n'est pas suffisant pour maintenir une population.
Alors pourquoi les oiseaux de mer sont-ils si vulnérables et peinent-ils autant à se reproduire? David Nobel dirige le département d'écologie au sein du BTO, l'association britannique pour l'ornithologie, qui contribue à établir la liste rouge.
Déjà, il y a le dérèglement climatique qui réchauffe l'eau et change les courants, ce qui réduit la quantité de poissons disponibles. Il devient plus difficile pour les oiseaux de nourrir leurs petits. Il y a les mammifères prédateurs, les chats, les furets, les rats, qui menacent les nids de certains oiseaux maritimes, la pêche et les maladies.
Au large de Bampton Cliffs, Dave O'Hara identifie d'autres dangers pour s'y protéger.
Les constructions en mer posent problème, surtout les éoliennes offshore. On en a besoin pour produire de l'énergie renouvelable et protéger le climat, mais elles sont dangereuses pour les oiseaux. Alors que des milliers d'éoliennes pourraient être construites en mer du Nord, avec la Société Royale de Protection des Animaux, nous essayons de suivre les mouvements des oiseaux pour identifier les zones où éviter de construire des éoliennes qu'ils pourraient percuter.
Tous ces dangers se répercutent sur le reste de la biodiversité marine, les poissons, les cétacés ou les phoques. Sur les falaises de Bampton, de l'aube au crépuscule, la popularité des oiseaux de mer est visible. Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de visiteurs viennent admirer leurs pirouettes aériennes. Mais face au dérèglement climatique, à l'industrie de la pêche et aux épidémies de grippe aviaire, que peut bien faire le grand public? Pour Dave O'Hara, la solution tient à l'éducation.
Il faut que les gens montrent que la nature est importante pour eux. Cela peut être en votant, en participant aux décisions locales, en soutenant des associations de protection de la biodiversité. Et puis, il y a tous ces petits gestes, réduire sa consommation de plastique, acheter du poisson pêché raisonnablement. Tout cela aide à protéger les oiseaux.
Et justement, il y a au moins une bonne nouvelle pour les ornithologues. Grâce au financement des recherches et des travaux pour comprendre les spécificités de chaque espèce, le cormoran huppé a pu quitter la liste rouge des espèces menacées.
Un reportage de notre correspondante au Royaume-Uni, Emeline Vin. Le groupe Meta travaille sur une nouvelle technologie qui serait incorporée dans des lunettes intelligentes dès l'année prochaine. Le projet s'appelle Super Sensing, super détection en français. Et il aurait la capacité de scanner les visages de personnes à proximité et de les identifier par leur nom. Le tout, évidemment, Dominique Dezonnet, à leur insu et sans leur consentement.
Oui, commercialisées depuis 3 ans, les lunettes connectées développées par Meta proposent déjà d'écouter de la musique en ligne, de répondre à des appels téléphoniques, mais aussi de prendre des photos et des vidéos en pressant un petit bouton fixé sur les montures. De minuscules capteurs camouflés dans les branches des lunettes permettent ainsi à leurs propriétaires d'enregistrer relativement discrètement ces images qui sont souvent publiées sur Facebook ou Instagram sans avoir obtenu préalablement l'autorisation des personnes photographiées. Les lunettes offrent également à leurs porteurs une vision augmentée de leur environnement pour obtenir des informations sur un monument ou sur un tableau, par exemple, lors d'une visite dans un musée.
Mais la firme américaine, qui a déjà démontré que le respect de la vie privée n'est pas vraiment sa priorité, travaille donc sur de nouveaux systèmes plus intrusifs.
Effectivement, les futures lunettes de Meta seront toujours équipées de caméras et de micros, mais cette fois, les images captées seront analysées par un programme IA de reconnaissance faciale. L'objectif de la firme est de fournir en temps réel des informations comme le nom des passants anonymes que les porteurs de ces lunettes croiseront dans la rue. Concrètement, le système IA puiserait ces éléments d'identification dans une base de données spécifique ou plus probablement directement sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram ou WhatsApp dont Meta est propriétaire.
Et les individus scannés n'auraient aucun moyen de s'y opposer.
Oui, d'autant que l'entreprise en a profité pour mettre à jour ses politiques de confidentialité aux États-Unis afin que l'IA intégrant déjà ses lunettes intelligentes actuelles soit activée par défaut. Les détenteurs des binocles connectés de la firme ne peuvent plus ainsi refuser que Meta stocke leur enregistrements vocaux et visuels qui serviront à entraîner ces modèles d'intelligence artificielle. Pour l'instant, ces futures lunettes ne risquent pas d'être vendues sur le vieux continent, la législation européenne interdisant l'usage de la reconnaissance faciale dans l'espace public, mais ces règlements pourraient bientôt évoluer du côté de Bruxelles, qui a récemment autorisé Meta à récupérer les données de ses abonnés européens, à la condition que la firme obtienne leur consentement. En revanche, rien de tel aux États-Unis. L'administration Trump, en refusant toute forme de régulation innovation dans le domaine de l'IA encourage plutôt le développement de ces technologies intrusives, des IA qui finiront peut-être à terme par nous précipiter dans un totalitarisme à la sauce technologique que décrivait si bien l'auteur anglais George Orwell du roman 1984, une société de surveillance généralisée dans laquelle la guerre devient la paix, la liberté, l'esclavage, l'ignorance, la force, comme se plaisent à le clamer aujourd'hui les autocrates Big Brother qui nous regardent.
Tout ça n'est pas vraiment très encourageant. Je vous remercie quand même, Dominique Dezonné. Bonne journée.
RFI Midi.
Dans 5 minutes, un nouveau journal sur RFI, toute l'actualité internationale. Et puis une demi-heure plus tard, l'actualité africaine. Avec vous, Nicolas Sûr. Bonjour.
Bonjour, Anne Cantner.
Et vous nous parlerez tout à l'heure?
Le nouveau pape, bien sûr, Léon XIV, chef de l'ordre des Augustins. Il s'est déjà rendu à plusieurs reprises en Afrique, et notamment en République démocratique du Congo, où l'on se souvient avec émotion de son passage dans les lointaines provinces du Haut et du Bas-Zouélé. Et puis au Tchad, l'ancien directeur de cabinet du président Mahamat Idriss Déby, Youssouf Boy, condamné ce matin à 5 ans de prison et une amende d'1 million de CFA pour corruption passive. Quant à celui qui avait porté plainte contre lui, l'homme d'affaires About Hachim Bouder, il est aussi condamné à la même peine.
Nicolas Sûr, on vous retrouve à 12h30, temps universel. Et pour l'heure, je vous propose une rencontre avec une personnalité du monde de la culture, celui qui est devenu le premier compositeur de musique électronique pensionnaire du musée Grévin. Vous savez, ce musée parisien de statue de cire, c'est particulier, mais c'est un signe de reconnaissance et DJ Snake y a désormais son double. Star internationale, 40 milliards d'écoutes sur les plateformes musicales et un concert géant demain à Paris au Stade de France. Le dernier en solo, selon l'artiste qui en parle à Edmond Sadaka.
Bonjour DJ Snake.
Bonjour RFI.
Alors nous sommes à la veille d'un moment très important dans votre carrière, le Stade de France. Pourquoi dites-vous que ce sera votre dernier concert solo à Paris?
C'est un choix difficile, mais en fait on ne pourra pas aller plus haut et moi je suis quelqu'un d'ambitieux. Et depuis le début, j'ai commencé à l'Olympia, ensuite on a fait le Zénith, ensuite on a fait Bercy, l'U-Arena, le Parc des Princes. Et on a voulu finir avec le Stade de France. Et si demain il y a un stade qui est plus grand que le Stade de France, je le ferai. Mais on va tout le temps vers le haut. Je peux pas redescendre.
Parce que tout est question de capacité de la salle, de public. C'est ça qui est le primordial pour vous?
C'est pas primordial. Ce qui est primordial, c'est les gens. C'est vraiment les gens. Mais je suis un challenger. Je me verrai pas redescendre en gamme, même si c'est des salles que j'adore. Mais en tout cas pour mon projet solo DJ Snake, je me vois pas descendre et je voulais finir au top, un peu à la Zidane.
Alors ça va être un concert gigantesque qui va durer plusieurs heures. Comment on fait pour équilibrer un concert pareil? Est-ce qu'il y a des dosages particuliers à avoir?
Ouais, en fait c'est un peu comme un chef cuistot. Faut doser un peu tous les ingrédients. Et pas que ce soit trop piquant, faut pas que ce soit trop salé. Donc il faut essayer de trouver la bonne balance, être juste, mélanger intensité, énergie avec les émotions, les anciens titres, les nouveaux titres, et essayer de trouver la recette magique pour faire sauter tout le monde à l'unisson et faire pleurer tout le monde à la fin. On va essayer de proposer ça, c'est ce que je fais.
Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba.
Depuis avant-hier, mercredi, DJ Snake, le public peut admirer votre statue en cire au musée Grévin à Paris, à côté de celle d'immenses vedettes internationales et françaises. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir été immortalisé en quelque sorte dans ce musée?
Et en fait, c'est un peu la consécration pour un artiste qui vient de banlieue parisienne et se retrouver dans cette institution qu'est le Grévin. Parmi tous ces grands artistes, ces grandes dames, ces grands hommes. Donc voilà, l'impression de rentrer dans l'histoire, c'est un grand mot, mais d'avoir marqué mon temps.
Merci DJ Snake.
Yeah,
Elle a les yeux sur ma magana. Mon bébé, t'es ma princesse Diana. Je sens du love, sortie, ma chérie.
Et dans la foulée du concert au Stade de France, DJ Snake finira par un second show à l'Accor Arena de Paris, cette fois devant 20 000 personnes. Ne cherchez pas, c'est complet. Les 100 000 billets de ces deux concerts se sont envolés en moins de 5 minutes.
Mon bébé, tu vas jouer, on peut jouer, c'est risqué. Sometimes, j'ai l'impression que tu t'éloignes. Dans mon cœur, tu cherches des failles.